de mon groupe ou de ton groupe, alors qu'il est ici de quoi? De muslimoun. Man huwa al-muslimu? Quel est le musulman selon la terminologie théologique? Huwa kullu insanin qala bi famihi sadiqan. Nous ne savons pas ce qu'il a au fond de lui-même, mais il le déclare en toute sincérité disant la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est quelqu'un qui ne renie pas la prière, yuqim as-salat. C'est quelqu'un yasoum Ramadan selon ce qu'il dit, parce qu'on ne sait pas qui jeûne Ramadan, qui jeûne pas. C'est quelqu'un qui dit qu'il s'est acquitté de sa zakat. C'est quelqu'un qui a fait son hajj. C'est quelqu'un qui essaie d'éviter devant nous al-kabar et qui ne porte pas atteinte à la communauté. C'est pas quelqu'un qui ne met pas ses mains sur la poitrine comme moi au-delà ses mains sur la poitrine ou sur le nombril. C'est pas ça le mécréant ou le non-musulman. C'est pas celui qui fait pas jeûne de cette istiraha qui n'est pas mon frère de la foi. Mon frère de la foi, c'est pas celui qui n'a pas de barbe comme moi. Celui qui n'a pas de barbe, c'est mon frère. Je lui dis pas tu n'es pas mon frère parce que t'es pas barbu. Mon frère de la foi, c'est pas celui qui fait pas donc qui dit pas a'oudou billahi minash shaitanir rajim au début de la sourate de la récitation. Ça c'est mon frère. Pourquoi? Parce que les fondements al-usul ad-din qui définissent le kafir ou le mu'min, il les a, il les exprime et il les assume. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de shaitan la'anahullah qui nous, si vous voulez, nous embellit l'appartenance à un groupe, croyant qu'avec notre groupe nous serons solidaires et que nous serons protégés. Personne ne sera protégé lorsqu'il est dans un groupe en minorité. Le groupe qui sera sauvé, je veux dire, c'est celui qui s'exprime en termes de communauté musulmane. De communauté musulmane. Al-mu'minuna. Al-mu'minuna. Ummatan. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé. Al-ummatu, laissat afrad. Al-ummatu, hiya jumu' al-muslimin. Donc, Rasulullah sallam nous exprime donc par cette attitude pratique, celle de surenchérir ou de venir conclure un contrat suite à un contrat déjà conclu et dont même la somme a été livrée et la marchandise est en livraison, est un méfait qui va être la cause du tadabur et qui va être la cause du at-tabarud. Comme Aqulu sallallahu alayhi wa sallam, en vérité tout cela est futile. L'argent et les ruptures pour des causes, si vous voulez, sans importance, et tout à fait sans importance devant quoi? Devant la notion de la fraternité. Vous ne devez pas oublier en vérité que vous êtes tous des serviteurs de Dieu, des esclaves de Dieu. Vous êtes tous égaux. Et que devant Allah subhanahu wa ta'ala, le plus important c'est celui qui manifeste ou qui essaie de manifester en lui la notion de l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui qui cherche à être un abd d'Allah. Celui qui cherche à yuhaqqiqa ubudiyyat Allah fi nafsihi. C'est celui-là le meilleur. Et ce abd d'Allah, s'il a compris cette notion, eh bien, il cherchera à être frère des autres. Kunu ibadallahi. Ikhwana, ibadallah avant tout, puis ikhwan. Et celui qui est abdullahi, il cherchera la fraternité des autres serviteurs de Dieu. Il ne cherchera pas à se couper d'eux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient en charge, comme j'ai dit tout à l'heure, et il insiste, il dit al-muslimu akhul muslim. N'oubliez pas, ô musulmans, que vous êtes des frères. Cette fraternité, elle n'est pas perdue, même lorsqu'on est dans une situation d'affrontement où il y aura même des morts entre nous. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit طائفتان من المؤمنين. Il n'a pas dit il y a un groupe de croyants et d'autres se sont des kuffars parce qu'ils ont combattu contre leurs frères. Il dit Allah donc subhanahu wa ta'ala nous annonce par sa science ancienne qu'il peut y avoir des dissensions, des litiges graves entre les musulmans qui peuvent les mener vers même un affrontement. Est-ce que cet affrontement n'a pas eu lieu dans l'histoire? Est-ce que ça ne fait pas partie des mu'jizat du Coran? C'est dans Mohammed reçoit cette sourate à Médine. Il meurt et après l'affrontement entre les musulmans a eu lieu entre le groupe solidaire avec Sayyidina Ali radiallahu anhu et le groupe Sayyidina Talha et Sayyidina Ibn Zubayr. Et puis il va y avoir l'affrontement entre l'armée musulmane qui défend la légitimité du calife Sayyidina Ali et entre Muawiya qui était Katib al-Wahi, écrivain de la révélation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala d'avance, il savait subhanahu wa ta'ala qu'il y aura des affrontements entre les musulmans. Est-ce que cet affrontement a fait que l'un des deux groupes est considéré kafir? La vie. Sayyidina Ali est allé plus loin dans la compréhension de l'islam et de la fraternité. Lorsque les Khawarij se sont opposés à lui et qu'ils n'avaient pas encore pris cette tournure de mécréance où ils ont innové et rejeté même des principes fondamentaux, après les avoir combattus et tués, il les a réunis et il a demandé qu'on les respecte comme tels. Et il a prié sur eux. Il a dit, Ikhwanuna baghaw alayna, fatahharnahum bihad al-sayfi. Il a dit, nos frères, ils ont agi en transgression envers nous. Nous les avons purifiés quoi? Par rapport à cette désobéissance et rébellion. Par la peine légale. La peine légale, il y a des gens qui ont puni par une peine légale, mais ils ne cessent pas d'être croyants. Al-Zani, le fornicateur là, du terrain musulman ou musulmane, sur qui on applique la peine légale de Dieu, est-ce qu'il cesse d'être croyant? Pas du tout. On applique la peine légale d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il est enseveli, il est lavé, il est enfoui sur lui et il est enterré parmi nous. Rappelez-vous ce qu'a dit la sallallahu alayhi wa sallam de Ramidiyya, après l'application de la peine légale sur elle, elle qui est venue se livrer. Elle a dit qu'elle se repentit d'un repentir. Si on le partageait entre tous les habitants de Médine, ils engloberaient tous. Il n'a pas dit « Fasiqa ». Et il s'est fâché contre la parole formule qui a été prononcée par Sayyidina Khalid ibn Walid radiallahu anhu, la concernant. Donc vous voyez jusqu'où l'islam va dans la science de la fraternité. Donc, si vous voyez quelqu'un, et vous le savez qu'il est un musulman, et qu'il est dans la désobéissance, vous ne pouvez pas, et vous n'avez pas le droit de l'enfoncer par le prétendu que vous êtes musulman et lui ne l'est plus. Et vous savez très bien que notre position commune sur laquelle il y a unanimité, que le pécheur dans notre communauté, il est toujours croyant, il ne cessera pas d'être croyant jusqu'à ce qu'il ne, il ne s'adonne pas à son péché par mépris et rejet au reniement. Mais tant qu'il s'agit d'une passion, il fait partie des nôtres et notre fonction est de l'aider, de le guider et non pas de le mépriser, de l'éloigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient après, il dit, et vous n'avez pas le droit, les croyants, oh croyants, vous n'avez pas le droit d'être injustes les uns envers les autres. Et l'injustice, ça peut nous prendre beaucoup de temps pour parler de la notion de l'adala, parce que pour mieux comprendre al-dhulmu, il faut parler de la justice. Mais je dirais une seule phrase. Nos savants, ils disent, ulama al-maqasid, ils disent, al-adalatu hu an tu'tiya min nafsika. C'est que tu arrives à un degré où tu vas prendre justice de ta personne pour les autres. C'est pas que tu appliques la justice sur les autres. C'est pas ça l'adala. Ça c'est facile. Être un juge, on dit anta zalim anta ma'aka al-haq. Mais imagine, tu reconnais que tu es injuste et tu demandes alors de venir et tu lui accordes son droit de ta personne, comme a fait Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un compagnon auprès duquel j'ai commis une injustice? Un compagnon a dit, oui ya Rasulallah, tu m'as fait mal avec ton petit bâtonnet avant la bataille. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a levé son ventre alors qu'il est venu, il a mis son visage contre sa peau parce qu'il voulait que ce soit la dernière chose qu'il touche avant de mourir, et Dieu lui a accordé le martyr. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, viens donc et je t'accorde le droit de prendre justice de ma personne physique. Il faut arriver à un degré où lorsqu'il s'agit de la vérité, il faut que la vérité supplante ta propre personne. Inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, nous annonce que lui, il s'est interdit à lui-même toute injustice parce qu'il est l'adl, il est le juste par essence, et il a considéré, il a établi, prescrit, déterminé que l'injustice est une chose aussi bannie entre les hommes. Peut-on accepter qu'un musulman soit un injuste, un oppresseur? Et l'oppression, comme je dis, elle a des degrés différents, vous savez. Il ne faut pas toujours, lorsqu'on parle de l'oppression, de l'injustice, on en parle au niveau du pouvoir. L'injustice, elle est à des degrés différents. Et l'injustice, elle peut être commise même envers les choses, même envers les créatures inertes, même envers les créatures animales, envers sa propre personne, envers son voisin, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas toujours se considérer exclu du discours de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam en disant, moi je ne suis pas détenteur de pouvoir, donc ça ne s'adresse pas à moi. Moi, je ne suis pas un tyran. Mais non, chacun est tyran dans son entourage, dans son contexte et dans son milieu où il bouge. C'est cette notion-là qui doit être présente à notre esprit. Puis Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le musulman ne méprise pas le musulman, il ne lui ment pas. Le mensonge. Le mensonge, c'est un autre péché majeur. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, on ne cessera jamais de répéter ce hadith où il met l'accent sur l'importance du mensonge, sa gravité. Parce que ça fausse les relations sociales, ça fausse les relations humaines. Je ne sais plus me fier à toi. Ya Rasulallah, ayasliq al-muslim? Qala bala. Oui, il peut voler le croyant, ça peut lui arriver. Ya Rasulallah, ayazni al-muslim? Qala bala. Oui, le musulman peut commettre la fornication. Ya Rasulallah, ayatub al-muslim? Qala la. Il ne ment pas. Il ne ment pas à lui-même. Il ne ment pas à son Seigneur. Il ne ment pas à ses frères. Il ne ment pas. C'est quelqu'un d'honnête. En son fort intérêt, il est honnête. Et il exprime avec les autres. Dans un hadith, le prophète a dit que parmi les graves péchés qu'un croyant peut commettre envers son frère croyant, c'est de lui mentir alors que l'autre le considère et le croit qu'il lui dit vrai. C'est un péché grave en islam. Tu mets tout un discours complexe et toute ton énergie pour convaincre ton frère d'un mensonge. Ça fausse les relations. Et la relation entre les musulmans, elle est basée sur l'honnêteté et sur la sincérité, sur la confiance. S'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus. Regardez, même au niveau de notre relation avec Allah, tout est synonyme de confiance. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, Dieu il ne vous accordera aucun crédit. قال تعالى انا عند حسن ظني عبدي بي شويتر قال الله تعالى شويتر كما سيرفيتور بونس دو موا اذا تحسن ظن بالله الله سبحانه وتعالى يتلزغا با يتلزغا با تومبي وانت اذا كنت تسيء ظن بالله tu as une mauvaise opinion d'Allah comment est-ce que tu veux qu'Allah سبحانه وتعالى t'accorde son aide et son secours lorsque tu as une mauvaise opinion de tes frères tu les mens et tu n'es pas crédible comment est-ce que tu veux que eux ils te fassent confiance ils pourront jamais te faire confiance الكذب ولا يكذب et puis رسول الله صلى الله عليه وسلم il ramène tout ça à la crainte d'Allah. Tout ce qui a été dit dépend du degré de la crainte et du respect d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa, 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 c'est la clé du paradis. At-taqwa, c'est que tu craignes Allah en public et en secret. At-taqwa, c'est que tu fasses des choses pour Allah et non pas pour les autres, ou pour obtenir une notoriété publique. Nous ne faisons pas les choses pour les autres. On fait les choses pour Allah. At-taqwa, c'est pas uniquement la crainte. At-taqwa, elle est plus que la crainte. C'est un respect révérentiel d'Allah. J'aime ce bon Seigneur, il est digne de respect et j'évite de qu'il me voie là où il n'aime pas. J'aime Allah subhanahu wa ta'ala et j'essaie de faire ce qui lui plaît. Parce que j'ai tellement une idée de lui, il est tellement, elle est majestueuse, que je ne peux pas me dédaigner de comporter face à lui avec des attitudes méprisantes envers sa créature. C'est ça taqwa. Taqwa, c'est un partage entre le khawf et l'espoir en Dieu, la crainte et l'espoir. Comme a dit Sayyidina Ali radiallahu anhu. Le croyant, il vit entre deux. Entre le khawf min Allah wa raja fillah. Il craint Allah, il espère Allah en Allah. C'est ça le taqwa. Donc il ne faut pas qu'on comprenne la piété comme étant un monstre. Non. La piété est quelque chose de spécial à cette fois islamique. La piété et la spirituelle islamique. C'est que tu respectes, tu craignes, tu espères en Dieu et lorsque tu éprouves ce respect et cette crainte révérentielle, au lieu de t'éloigner du sujet de ta crainte, elle va te rapprocher de lui. Vous savez, la règle, c'est lorsqu'on craint quelqu'un, on l'évite. Entre nous les humains, tu sais que dans ta quartier, il y a un casse-pied, un vulgaire, une personne qui est malfaisante. Tu essaies d'éviter le quartier où il habite ou le coin où il est toujours assis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu le craignes, tu t'approches de lui. C'est quelque chose de spécial. نَخَافُ اللَّهَ فَنَخْتَرِبُ مِنَ اللَّهِ Plus on le craint, plus on est proche de lui. Ce qui n'est pas le cas des créatures. La taqwa. Et Sayyidina Muhammad a insisté que la taqwa est une question de sincérité. Ikhlas. Elle est là. Elle émane du cœur. Et tout ce qui va en découler du cœur, on va le constater dans ses relations, ses interrelations avec ses frères de la foi. Puis Sayyidina Muhammad sallam insiste de nouveau sur la fraternité en insistant sur une attitude qui ne doit pas exister entre nous. C'est le mépris. Tu n'as pas, aucun d'entre nous n'a le droit de mépriser son frère à cause de sa pauvreté, n'a le droit de mépriser son frère ou sa sœur à cause de sa laideur, à cause de son statut social, à cause de ses origines ethniques. Tout cela est banni en islam. Kafa, il a dit, donc yakfi, vraiment il n'y a pas à rajouter au péché, à ce péché, autre péché pour dire qu'il s'agit de quelque chose de grave. Il vous suffit comme péché grave que de mépriser votre frère, que de mépriser votre sœur dans la foi. Donc, nous n'avons pas le droit ni dans une mosquée, ni dans une académie, ni dans une association, ni à l'intérieur de la communauté, d'agir et de fonctionner en termes de clan, de clivage. C'est interdit. C'est interdit. Nous pouvons penser différemment, mais nous devons ne jamais oublier que nous sommes une communauté unique. Et que tous ceux qui se dirigent vers la Qibla, tous ceux qui croient fermement en Allah, tous ceux qui croient fermement en Rasulallah, tous ceux qui considèrent le Coran et leur livre saint, tous ceux qui considèrent Sayyidina Muhammad sallam comme leur unique guide, ils doivent savoir que tous ceux qui pensent ainsi, et j'insiste, sont leurs frères dans la foi et leurs sœurs dans la foi. Et que rien ne peut les séparer. Rien. Puis Sayyidina Muhammad sallam insiste à la fin, il dit, vous devez savoir que vous ne pouvez pas porter atteinte à un croyant à n'importe quel niveau. Vous ne pouvez pas porter atteinte à sa vie. À sa vie, directement ou indirectement. Vous ne pouvez pas tuer un musulman. Vous ne pouvez pas tuer une musulmane. Vous ne pouvez pas participer. Vous ne pouvez pas participer activement ou passivement. Vous ne pouvez pas indiquer et espionner des musulmans et des musulmanes pour que, et cela avec le risque que ça les mène à leur perte physique. Vous ne pouvez pas. Celui qui le fait, il a commis un péché des plus graves. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dit que celui qui tue une seule vie humaine, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. il n'y a pas plus grave dans notre religion, plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de tuer un musulman, une muslima. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a considéré qu'il a plus de valeur que la sainteté de la Kaaba même. Donc, indiqué dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a indiqué ou qui a aidé un injuste à tuer un musulman, ou il a espionné en sa faveur pour tuer un musulman, il viendra au jugement dernier et c'est écrit sur son front Kha'im, traître. Donc, qatl al-muslim peut être actif de manière active ou de manière passive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit même d'effrayer notre frère de la foi à part le jeu avec un couteau ou quelque chose de semblable. Il a interdit cela. Que dire lorsqu'on participe à son élimination? Et puis le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, et les biens des musulmans, on ne peut pas porter atteinte de l'interdiction de l'usurpation, de l'interdiction du vol, de l'interdiction de la tricherie, de la tromperie. Tout ça, ce sont des péchés majeurs en islam. Parce qu'on porte atteinte à un bien qui ne nous appartient pas. Et puis après, le prophète a parlé de l'arf, l'honneur. L'honneur, c'est-à-dire l'interdiction de la diffamation, de la calomnie, de l'riba. Par la ta'ala, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan. Votre frère, croyant, votre frère de sang est mort, et vous êtes en train de hacher, et de happer, et de couper, découper des morceaux de sa chair, et vous la consommez. Vous ne l'aimez pas ça, Dieu dit. Alors si vous n'aimez pas ça, alors fattakullah, craignez Dieu concernant votre frère dans la foi, à qui toujours en longueur de journée, vous portez atteinte à son honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyida Aïcha, lorsqu'il a parlé de, il lui a parlé de riba, il lui dit, si vous diffamez quelqu'un, vous parlez derrière le dos de quelqu'un, et ce que vous dites est vrai, fahadihi ribatun. Et si ce que vous dites est faux, fahada buhtan. Donc dans les deux cas, on est dans le mépris par Allah subhanahu wa ta'ala, et dans les deux cas, on a commis un péché majeur. Fihi al-aib. La personne, elle est sujette réellement de ce délit. Et vous ne pouvez pas parler d'elle en son absence. Si vous voulez aider cette personne, vous devez la conseiller. Et vous appliquerez à ce moment-là le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Onsala khaka zaliman aw madhluman ». Votre frère est en train de commettre un délit ici, une injustice envers sa propre personne. Aidez-le à se retenir, à changer, et non pas à enfoncer-le en parlant de lui. Voilà, si vous voulez, quelques notions réelles et pratiques de la fraternité que nous avons oubliées. Et que la fraternité n'est pas simplement un slogan qu'on répète. Tout le monde parle de la fraternité islamique. Mais vous constatez, et vous le savez comme moi, tout le monde se plaint de tout le monde. Tout le monde se plaint de tout le monde. Il n'y a pas une assemblée de musulmans où vous assistez, où on ne se plaint pas d'autres musulmans. Est-ce que vous ne considérez pas que la solution et le remède est le fait de se mettre en question ? De remettre en question sa propre personne avant de remettre en question les autres et les accusés. Est-ce que chacun d'entre nous s'est-il identifié à ces quelques éléments qui sauvegardent la notion de la fraternité telle que la Sallallahu alayhi wa sallam les a annoncés? Est-ce que chacun d'entre nous se sent-il responsable des autres au lieu d'être juge des autres? Al-ukhuwatu ribatun muqaddas. La fraternité en islam est un lien sacré. Allah subhanahu wa ta'ala l'a énoncé et comme j'ai dit, et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en pratique. Puisque je vous rappelle, pour rappel, donc j'en conclue avec ça, il a réalisé cette fraternité islamique à deux reprises, une fois à Mecca entre Al-Muhajiroun, alors qu'ils étaient une minorité persécutée, et il a donc réalisé le pacte de fraternité une nouvelle fois entre Al-Muhajiroun et Al-Ansar, pour montrer aux Ansar qu'ils n'ont aucun mérite. Et ceux-là, ils ne sont pas des pauvres qui viennent chercher refuge auprès d'eux, ce sont leurs frères. Et les Ansar, ils ont compris le message, ils l'ont saisi, et ils sont passés à la pratique. La fraternité est un exercice pratique et non pas une notion, comme j'ai dit, obsolète ou une théorie. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوانا في الله متحابين فيه وأن يجعلنا من المتناصحين وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر المبارك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا ممن يقولون ما يفعلون ولا تجعلنا ممن يقولون ما لا يفعلون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية ودوام العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى مخلصين لك الدين ولو كره الكافرون. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وبارك لنا في أهلنا وذرياتنا وبارك لنا في إخواننا وراجع بنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. وصلي اللهم وسلم وبارك في البدء والختام على سيدنا محمد خير الأنام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ظلمنا عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.